Alors, je voulais vous dire quelques mots à propos du repas. On a eu quelques petits soucis avec un changement d'adresse. Et puis, il faut bien dire qu'on a eu aussi quelques petits soucis avec des inscriptions qui sont arrivées très tard. Ce qui fait que là, j'ai encore quelques difficultés de gestion pour le repas. Je voulais vérifier que Michel et Maryse Rouchouz ne sont pas là. C'est clair. Ensuite, pardon. Monsieur Sylvain Bois, il n'est pas là. Bon, ben je vous remercie. Moi, je finis mon petit tour et puis je repasse le micro.
Monsieur qui m'a demandé la parole pour l'exposition, vous voulez bien ?
Merci, oui. Je vais être très, 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 très court, mais j'ai demandé une toute petite page de publicité pour ce qui n'est pas une initiative d'une association, puisque c'est l'exposition sur poèmes et chansons de la mine 1840-1914 qui est au musée de la mine en ce moment et jusqu'à la fin février. Et bon, pour laquelle je suis particulièrement motivé parce que c'est moi qui l'ai préparé. Voilà. Et que je pense sincèrement que ça intéresse l'histoire ouvrière. Alors, si vous en voulez plus, moi aussi j'ai apporté le dépliant de l'inauguration du musée, là, puisqu'il y a les nouvelles salles qui sont inaugurées la semaine prochaine. Ce dépliant que vous avez déjà dû voir des dizaines de fois un peu partout. Mais enfin, si jamais vous en voulez un, j'en ai, je vais le montrer tout à l'heure.
Merci beaucoup. Maurice Bedouin reprend la parole.
Oui, la pause nous a permis déjà d'aborder beaucoup de sujets intéressants. Finalement, qu'est-ce qui nous réunit tous ici, que nous soyons dans les associations ou usagers des associations, des musées et des structures patrimoniales ? C'est le terrain. Voilà, c'est la principale chose qui nous intéresse. Et que monsieur nous ait proposé là, ces initiatives, ça veut dire que dans ce moment de débat que nous allons avoir, c'est tout à la fois des perspectives importantes que nous allons partager. Comment faisons-nous vivre le terrain ? Comment faisons-nous vivre nos associations, nos musées, nos structures ? Et puis, comment pouvons-nous faire pour mieux nous connaître, peut-être ? C'est aussi une des ambitions de la journée. Alors, maintenant, Christelle a pris un petit peu de recul par rapport aux interventions qui ont eu lieu jusqu'à présent, et elle voit très fortement maintenant apparaître des problématiques qui peuvent être des lignes de force de notre débat ou peut-être être laissées sur la touche s'il y a des choses que vous estimez plus intéressantes à aborder. Mais il y a Jean-Paul qui veut dire quelque chose encore pour les repas.
Ok, donc merci beaucoup Maurice pour la transition, et puis merci à tous les intervenants de ce matin qui nous ont quand même permis de voir ce qui avait été posé par Maurice en début de matinée, à savoir que nous avions, pour reprendre le titre de cette matinée, tissu associatif et mémoire ouvrière, un tissu dense à n'en pas douter. Avec des initiatives extrêmement nombreuses, extrêmement riches. Nous en avons eu la démonstration aussi. Donc cette densité du tissu associatif, elle représente aussi, elle est comme la projection actuelle, sans doute de la densité des activités industrielles, productives, qui se sont installées au cours du temps dans cette région. Elle représente sans doute aussi leur densité, leur diversité. C'est pas tout à fait la même chose, et elle représente sans doute aussi leur singularité, puisque vous avez bien entendu que lorsque Karine Keppel, je vais écorcher les noms, j'ai plus le programme sous les yeux, Pétel, pardon, présente la maison du patrimoine et de la mesure, il est bien évident que la mine, pour reprendre ce singulier qu'on utilise souvent, eh bien, ce n'est pas la mine, c'est les mines. C'est bien évident qu'il n'était pas que l'organisation du travail, le système productif minier n'était pas le même à la Talaudière qu'à l'autre bout du bassin, et qu'être mineur à la Chazotte, ce n'était pas non plus tout à fait la même chose. Donc, un tissu associatif dense qui est bien représentatif de la densité, de la diversité, de la singularité aussi de ces activités productives en région stéphanoise. Je crois qu'on peut en revenir à des travaux de géographes. Alors, il me semble que j'ai aperçu Georges Guay dans la salle qui est là-bas, et aussi d'André Vente, qui ont montré il y a quelques années que, au contraire d'avoir sous nos pieds et sous nos yeux une grande région industrielle intégrée, on a au contraire la juxtaposition de systèmes productifs différents qui se sont structurés au cours du temps, qui ont joué, si je puis dire comme ça, avec aussi des identités, des petits territoires préexistants pour mieux s'installer dans cette région industrielle. Donc, bon, il y a une ce tissu associatif dense est aussi à l'image de cette histoire complexe de l'industrie dans cette région-là. Un tissu dense représentatif aussi sans doute de conflictualité. Alors on en a entendu, et je crois vraiment et très sincèrement qu'il ne faut pas les escamoter, que la dispute est bonne parfois, si on l'entend au sens positif du terme. Alors une conflictualité qui est parfois au sein même des activités, être dépositaire de la mémoire de quelque chose dans une région, ou être dépositaire de ces trésors que représentent les archives, hein, par exemple, plus que d'autres, mieux que d'autres. Mais je ne stigmatise rien quand je dis ça, dans la mesure où je comprends très bien, enfin nous comprenons très bien, que le processus de désindustrialisation ici a été pas forcément très rapide, mais en tout cas violent, comme dans beaucoup de régions, et que le fait de sauvegarder quelque chose de cette aventure qui se délitait était tout à fait une nécessité à certains moments. Je crois qu'on l'entend bien dans le récit de certains d'entre vous. Donc un tissu dense dans lequel sont incorporés aussi des conflits. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Un tissu peu tramé pour poursuivre cette métaphore textile, parce que vous avez cité beaucoup de partenariats. C'est vrai qu'il y a aussi eu un certain nombre de tentatives pour essayer de mettre ces diverses initiatives patrimoniales en réseau. Parfois, Maurice se rappelle sans doute de quelque chose qui s'est appelé au début, milieu des années 90, Traverban, dont il reste quelques traces sur le web, qui avait été une tentative, alors pilotée, peut-être était-ce un problème en soi, pilotée du centre, ou en tout cas d'une des centralités de cette région industrielle, pilotée de Courriau, pour ne pas le nommer, mais qui visait bien, et sincèrement, je pense, de la part d'un certain nombre d'acteurs, à essayer de mettre en réseau, et ça ne voulait pas dire réduire la singularité de chacune de ces associations ou de ces initiatives, mettre en réseau ces différentes initiatives. Parce que tout ça, ça produit quand même, ça contribue à produire des territoires, des petits territoires, et ils sont précieux hein, dans notre histoire collective. Ça contribue aussi à produire des collectifs. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, d'une certaine manière, c'est toutes ces initiatives patrimoniales, mémorielles, comment elles peuvent contribuer aussi aujourd'hui à construire ces nouveaux collectifs ou ces nouveaux territoires qui sont extrêmement importants. On nous en parle tous les jours, les nouvelles régions. Alors, je ne me situais pas à cette échelle-là, mais en tout cas, le nouveau Saint-Étienne Métropole, qui de communauté d'agglomération va passer à communauté urbaine, ça ne va pas être les mêmes choses, on ne va pas nous raconter la même histoire collective, sans parler, la métropole de Lyon, je la laisse de côté, mais elle est sans doute importante pour ce que Morane travaille, ou ce qu'on appelle le pôle métropolitain, c'est-à-dire des un organisme, une organisation qui souhaite développer la coopération entre des structures de coopération intercommunale elles-mêmes et entre Saint-Étienne Métropole et le Grand Lyon, pour ne pas le nommer. Peut-être il y a une échelle aussi qui sont des nouvelles échelles de l'action publique, mais auxquelles peut-être vos initiatives peuvent contribuer en participant à la construction de ces nouveaux collectifs. Donc un tissu dense, un tissu peu tramé, ça a à la fois un pendant de la richesse, mais aussi du morcellement parfois. Donc il me semble que là-dedans, il y a un rapport complexe à l'histoire industrielle qui s'est terminée dans des conditions qui ont aussi abîmé, je crois, la société telle qu'elle fonctionnait, qui ont aussi abîmé un rapport au travail, je vais le dire comme ça parce que je le pense, que ce morcellement des initiatives a aussi sans doute à voir avec un rapport aux politiques, donc qui a été sensible dans l'intervention de Morane, un rapport à l'histoire de ces villes et aux projets, aux différents projets politiques qui les ont saisis, et peut-être des projets politiques qui ne font pas trop réifier, parce que je crois que oui, bien sûr, il y a une intention de la ville de Saint-Étienne de se redévelopper autour de la cité du design. Je crois en même temps que ce genre de discours, en tout cas un certain nombre d'auteurs de ces discours sont assez conscients qu'ils se prennent au jeu d'un champ qui est celui du marketing urbain, mais que dans d'autres sphères de leur action politique, ils font aussi d'autres choses avec les associations, donc pas forcément trop réifier non plus ces initiatives. Bref, tout ça pose, me semble-t-il, la question. Alors du patrimoine, je trouve que c'est toujours un mot compliqué, mais en tout cas de l'héritage, ça c'est sûr, des héritages, peut-être les mémoires ouvrières, faudrait-il les pluraliser dans le titre, mais des héritages de cette histoire industrielle, des héritages de vos initiatives. Vous avez aussi posé la question de la jeunesse, et quand on dit jeune, on dit vieux et vice-versa. Donc comment on transmet tout ça? J'ai été sensible dans vos interventions aux différentes formes d'exposition que vous mettez en œuvre, aux différentes formes d'actualisation de ces mémoires, de ces savoir-faire. Alors avec les beaux objets de la Maison des Tresses, forcément, on est assez fascinés. Je pense aussi qu'il y a des formes d'actualisation qu'il faut trouver pour ces nombreux témoignages qui ont été recueillis. Quand j'entends tout ce qui a été recueilli à la Talaudière en termes de d'enregistrement de mémoire, mais conserver tout ça, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on peut actualiser, les faire travailler, et sans doute pas, même si ça peut contribuer, et ça j'ai été aussi très heureuse d'entendre combien vous êtes sensible désormais à faire travailler des étudiants là-dessus, mais je crois qu'il faut réfléchir à d'autres formes d'actualisation de tous ces trésors, de toutes ces collections que vous avez assumées. Et du coup, sur cette question de l'héritage, je poserai aussi volontiers la question de quels sont vos publics aussi, que vous pouvez nous dire des publics qui viennent vous voir, parce que c'est important aussi pour cette question de l'héritage. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, peut-être un petit peu plus que ce que je souhaitais, mais je crois que c'est que maintenant la parole est à vous, à nous, et qu'on puisse débattre de ces questions-là.
Nous avons un micro-baladeur.
Oui, Michel D'Alberti, Histoire et patrimoine de Saint-Étienne. Je ne présente pas l'association, c'est peut-être pas la peine, vous la connaissez tous, je suppose. Elle gère le musée du Vieux Saint-Étienne. Je voulais simplement rebondir sur ce que vous avez dit avec le maillage du territoire au niveau des associations. C'est la première réflexion que j'ai pu avoir quand j'ai été élu comme président. Et quand j'ai été élu comme président de Histoire et patrimoine, j'ai pensé qu'il était nécessaire de passer à une autre échelle, de ne pas rester uniquement sur la ville de Saint-Étienne, et qu'il fallait peut-être commencer à coordonner les actions sur tout le territoire de Saint-Étienne Métropole. Nous avons donc pris contact avec les différentes associations. Nous nous rencontrons à peu près régulièrement. Nous essayons de trouver des éléments fédérateurs, avec notamment des échanges d'expositions qui peuvent intervenir. Nous avons proposé, nous, des expositions qui ont été effectuées chez nous et qui pourraient se promener un peu de partout, c'est-à-dire à Firminy, à Roche-la-Molière, ou à Tressé-Alincet, ou la Maison de la Forge, etc. Nous avons aussi proposé donc un travail fédérateur sur Saint-Étienne Terre d'Invention pour essayer de recoller les différents inventeurs de la région stéphanoise, et nous avons commencé donc à faire circuler des listes que nous avons trouvées de brevets qui ont été déposés et qui sont importants. Et puis actuellement, nous pensons qu'il y a deux problématiques concernant notre territoire. Il y a d'une part le problème du patrimoine et d'autre part le problème de la mémoire historique. Le problème du patrimoine, c'est la conservation de bâtiments, de documents ou d'autres éléments comme ceux qui sont dans nos musées, des archives. Il y a un deuxième élément, c'est le problème de l'histoire, c'est-à-dire faire des travaux historiques pour essayer d'expliquer aux gens ce territoire de Saint-Étienne Métropole. Nous nous trouvons confrontés à un double problème. D'une part, il y a une très grande diversité dans les soutiens que les différentes municipalités peuvent apporter aux différentes associations, nous avons pu le constater. Il y a des soutiens absolus de la part de certaines municipalités, il y a au contraire des soutiens pratiquement inexistants dans d'autres. Donc ça, c'est la première des choses, c'est pour ça que nous pensons qu'il est nécessaire de pouvoir rencontrer les élus de Saint-Étienne Métropole pour essayer d'harmoniser tous ces éléments. Il y a le deuxième point qui est le problème. Alors, nous avons donc une réunion d'ailleurs avec le vice-président chargé du patrimoine de Saint-Étienne Métropole et le directeur de l'office de Saint-Étienne Métropole de l'office du tourisme. Nous aurons à leur poser des questions et nous aurons à obtenir des réponses, notamment sur des problèmes, des problématiques de parcours industriel pour des visites, ce qui nous semble être important. Visites thématiques qui peuvent intervenir. Tout ça se résoudra peut-être, nous expliquera-t-on, avec le passage de Saint-Étienne, ville d'art et d'histoire, en Saint-Étienne, pays d'art et d'histoire, le jour où véritablement les choses se mettront en place. Il faut une volonté politique pour cela, je ne sais pas si elle existe. Le deuxième élément, c'est le problème de la mémoire et du travail sur toutes les archives et de faire comprendre à la population ce qu'est notre territoire. C'est très bien, il y a le travail sur la mémoire ouvrière. Il y a peut-être des tas d'autres aspects qui pourraient être intéressants et je pense qu'il faut que nous puissions travailler tous ensemble là-dessus. C'est pour ça qu'il faut trouver des sujets transversaux. Il n'y a pas seulement que l'aspect de la mémoire ouvrière, il y a aussi l'aspect des bâtiments industriels. Il peut y avoir aussi, et il faut donc essayer de fédérer, dans tout ce qui est le tissu industriel de Saint-Étienne au 19e et 20e siècle. Voilà ce que je voulais dire. On essaye de réunir les gens. Je pense que ça devrait se développer, que la mayonnaise devrait pouvoir prendre et que l'on puisse, à ce moment-là, intéresser et peser sur les décideurs et sur les politiques.
Je pense qu'on peut peut-être donner le micro à Sandrine Sanquer, qui a été interpellée quand même dans cette question sur ville d'art et pays d'art et d'histoire.
Oui, effectivement, il y a un projet donc, qui est débattu prochainement donc, par les instances délibérantes, donc le conseil municipal ville de Saint-Étienne et le bureau des présidents Saint-Étienne Métropole, pour que la convention signée donc d'art et histoire, qui a été signée présentée par Michel Thiolière en 2000, mais un petit peu dans l'esprit de ce qu'a présenté Morane comme un outil un peu marketing du territoire et peu axé encore sur un travail complet en direction des mémoires ou d'un travail sur les héritages industriel du territoire, pour faire transformer donc cette convention en pays d'art et d'histoire donc sur l'ensemble du territoire de Saint-Étienne Métropole, considérant ce qu'a rappelé Maurice en introduction, une histoire un peu cohérente de bassin, et puis les multiples travaux que vous pouvez mener tous. Donc en fonction des décisions et du conseil municipal et du bureau des vice-présidents de Saint-Étienne Métropole, c'est sûr qu'on reprendra un bâton de pèlerin pour écrire tous ensemble donc un projet qui cette fois, je pense, donnera quand même plus de place aux questions de mémoire et aussi aux questions d'ancrage de ces mémoires dans des lieux, enfin dans des espaces ou dans des représentations du territoire. Voilà.
J'abuse de ma position devant. Non, je veux simplement aussi réagir à un élément de votre discours. Alors, sachant que pour préciser ma position, j'ai travaillé au départ avec le Grémousse, puis Jean-Michel sait combien je m'en suis éloignée de fait parce que la vie d'enseignant-chercheur est pas démultipliable, pas plus que celle d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas sur ces questions de mémoires ouvrières, je crois que c'est important. J'essayais de le dire dans mon introduction, mais je suis contente que vous ayez saisi ça. Je crois qu'il y a effectivement des mémoires, et puis vous renvoyez aux analyses historiques. Il y a aussi, bien évidemment, des visions de l'histoire, mais aussi des sources différentes pour faire ces histoires-là. Donc, vous avez entendu cette question des archives, et que l'on retrouve dans ces travaux historiques des angles d'attaque différents ou aussi des visions de l'histoire différentes. Je crois qu'il ne faut peut-être pas s'en étonner. En tout cas, il me semble que le travail, en tout cas la part que je connais, n'a jamais été de l'objectif n'a jamais été de faire des mémoires ouvrières contre d'autres mémoires, mais bien des mémoires du monde industriel, qui est un monde où qui dit ouvrier dit patron, et c'était bien de ça, je crois, dont il s'agissait, de rendre compte aussi de rapports sociaux, de rapports de force parfois, mais voilà, il me semble que l'objectif être là, et au contraire, ce qui est en jeu, c'est de les frotter, ces travaux historiques, et de se trouver autant de scènes de rencontres et de débats qu'il est possible entre ces différents travaux. Est-ce qu'il y a d'autres réactions?
Je ne veux pas anticiper sur ce que je vais dire cet après-midi, mais Monsieur De Alberti a dit qu'il fallait trouver des sujets transversaux au-delà de la mémoire ouvrière. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, peut-être qu'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas souvent en deçà de la mémoire ouvrière? C'est juste une question que je suggère comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant? Oui.
Oui, ce matin, on a entendu beaucoup parler...
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Ah, pardon. Oui, Maurice Mattet.
De Saint-Chamond.
Voilà. on a entendu beaucoup parler ce matin de récolte de témoignages du patrimoine. C'est bien, on le stocke, on le numérise, mais il vient la question tout de suite après, comment on y accède? Parce que c'est bien gentil de le mettre dans un coin, de le mettre dans des banques de données, tout ça, mais si personne ne peut y accéder, ça ne sert à rien. Alors, de temps en temps, il y a des choses qui ressortent au cours d'expositions, mais encore faut-il être là au bon moment pour aller voir cette exposition. Il faut être disponible, etc. Bon, on nous a distribué tout à l'heure un papier pour, je ne me rappelle plus ce que c'était, qui se déroule le 5, 6, 7 décembre. Pas de chance, je voudrais y aller, mais je ne suis pas là. Bon, donc, comment faire? Ah oui. Bon, moi, j'ai eu l'occasion d'être confronté à ce problème dans un domaine familial, ce qui m'a entraîné à un certain nombre de recherches. Maurice Bedouin, ici présent, peut en témoigner, puisqu'on a partagé un certain nombre de choses, mais il a vu qu'une petite partie de tout ce que j'ai chez moi. Comment y accéder? Alors, il y a des organismes qui y ont pensé, tels que la Bibliothèque nationale de France, qui met en ligne un certain nombre de documents, d'ouvrages, qu'on peut même télécharger. Je ne vous parlerai pas de l'INA, parce que chaque fois qu'on veut quelque chose, il faut payer. Donc, c'est inaccessible, pratiquement. Donc, voilà le problème.
Bien.
Monsieur Destour, Madame Bidou, après.
Oui. Je voudrais faire une remarque. Henri Destour, pardon, Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds. une remarque sur, qui m'a un peu frappé. Quoi. On a parlé de la fréquentation. Alors, je ne vais pas du tout pointer la maison des Tressé Lasset que j'ai visitée, qui est remarquable, c'est pas ce que je veux dire. Qui disait, bon, on a fait 5600 personnes, on a progressé de 4, c'est bien. La question que je me pose, c'est plutôt combien connaissent pas la maison des Tressé Lasset. Et n'en ont jamais entendu parler. Voilà. Et comment accéder à ces gens, quoi. Ça me paraît être ça la question centrale, un peu, si vous voulez, hein, ce que disait Marc Bloch, hein, être capable de parler aux doctes et aux écoliers également. Voilà, c'est tout. C'est la remarque que je voulais faire. J'ai pas de réponse, hein, de toute façon.
Quand vous dites comment y accéder, je pense qu'effectivement, il y a un problème d'emploi du temps personnel, un problème peut-être de déplacement parce qu'on est à la terrasse. Je parle de la maison détresse, hein, les autres structures aussi, évidemment. Il y a un problème peut-être de déplacement, mais je crois aussi que là, vous évoquez... Alors, je vais peut-être faire bondir certaines personnes, mais le public actuellement a... un choix énorme d'activités, de propositions, de festivités, de festivals, et j'en passe, et des meilleurs. Donc il y a pléthore, et ce n'est pas du tout péjoratif quand j'utilise ce mot, on est d'accord. Il y a pléthore de propositions. Un, deux, je ne suis pas sûre que nous sommes actuellement dans le domaine de plus en plus du consensuel et de la pensée unique. Donc, il faut déjà que ce public-là soit capable de faire certains choix au regard de toutes les propositions qui sont faites. Et puis aussi, alors là, je vais en venir à un élément bassement matériel, c'est-à-dire que comment accéder, c'est-à-dire comment nous, par exemple, faire connaître au grand public la maison des Tressé Lasset, c'est un problème de com, un problème de communication. Or, c'est un problème financier. Alors, peut-être que certaines personnes ont été un peu surprises que je dépose sur les chaises le petit flyer sur Noël en Tresse, mais... Bon, je m'en excuse auprès d'elle, mais c'est vrai que c'est un moyen que j'ai trouvé aussi avec Sarah pour faire connaître. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'essaye de voir un petit peu tous les problèmes. Donc, et puis, alors dernière chose, j'ai entendu la question. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce que nous avons? Et Madame a dit comment fait-on pour faire des liens? Et à mon avis, c'est la question essentielle, vitale. Comment fait-on pour faire des liens entre le passé, le présent et l'avenir? C'est-à-dire que toutes ces archives, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment va-t-on les faire connaître aux enfants? Parce que c'est aussi ça, il faut qu'il y ait une transmission du passé. Alors on dit qu'on ne peut pas se construire si on ne connaît pas son passé. Sans doute, j'imagine. Voilà, alors j'ai essayé de donner un petit peu en bloc toutes mes réflexions sur ce que nous venons d'entendre.
Oui, Solange Bidou, archives départementales. C'était juste pour compléter. Quand on a parlé de l'accessibilité sur Internet, il y a la BNF et donc le site Gallica qui a été évoqué, celui de l'INA. Je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que je crois qu'en nombre de pages, ça doit être les premiers de France, tout ce que font les services d'archives publiques, archives nationales, archives départementales, archives municipales, où nous avons mis des millions de pages disponibles sur le site. Voilà.
Michel Destour, ARRH, Rive de Gier. Je souhaiterais poser la question justement de l'utilisation des archives, parce que j'ai été étonnée, j'ai été très intéressée par ce qu'il s'est raconté ce matin, mais j'ai été étonnée que dans aucune association on évoque la publication, c'est-à-dire le travail que l'on peut faire, non pas en tant qu'universitaire, mais en tant que membre d'une association, sur les archives, voire différemment, et comment on publie. Donc, au niveau de la RRH, on a des publications. je souhaiterais savoir quel est le sentiment de tous sur qui écrit, qui utilise, qui publie, comment.
C'est quatre associations qui publient régulièrement un bulletin, dont vous. Et il y a deux autres associations qui, au fil de leur sujet, je pense aux Amis du Chambon et à Patrimoine et Histoire, abordent des questions qui sont proches de l'héritage industriel et ouvrier. Ce qui est beaucoup. Et puis une structure alors, qui a une place énorme dans ce thème de la publication, c'est le CERPI, puisqu'ils ont à la disposition du public, je crois, 17 petites brochures. 11 conférences. Là, il y a un travail palpable parce qu'ils sont capables d'être à la disposition de la demande à travers ces choses-là.
Et est-ce que vous pouvez nous dire pour vous, pour votre association, ce que, je sais pas, les enjeux, les difficultés ou tout l'intérêt de votre point de vue aussi sur ces publications?
Le problème, c'est pour utiliser des archives. Il faut les utiliser de façon un petit peu méthodologique, méthodique. Il faut sortir des publications qui aient, disons, une qualité. Donc c'est tout le problème justement de cette réflexion que l'on a ou que l'on n'a pas au niveau des associations qui se posent. On n'est pas forcément des historiens. C'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de publier sur la mémoire, ce qui est mon cas. On a parfois également des documents qui nous arrivent qu'on ne sait pas exploiter. C'est vrai qu'il faudrait avoir des collaborations. Sur le plan, il y a le plan financier. Nous, on est une petite association. Ce qui a été très intéressant ce matin, c'est de voir quand même que toutes les associations qui se sont manifestées ont quand même un soutien. De la part d'une municipalité, de Saint-Étienne Métropole, etc. Nous, on fonctionne en autarcie, d'une certaine façon, simplement avec ce que nous reviennent des adhérents et éventuellement ce que nous rapportent nos publications. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et aujourd'hui, on aurait des articles à sortir qu'on ne peut pas éditer parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Donc il y a le problème des moyens, il y a le problème de qui doit intervenir, de comment on doit le faire, etc. Sur le plan de la... on parlait tout à l'heure, je voulais rajouter, parce qu'on parlait d'expériences où les associations s'étaient réunies. Et il y a une initiative qui avait été prise il y a quelques années par les archivistes de la vallée du Gier, dont Catherine Morellon qui est là, sur la rivière Gier. Et qui a permis justement des collaborations avec, y compris, M. Gay, etc. Et c'était une grande initiative qui a été assez fédératrice et qui a quand même transformé l'idée, y compris qu'on se faisait du gier dans la vallée.
Je voulais rajouter. Prendre la parole là-bas qui a levé la main.
Premier. C'était l'exposition dans cette vallée qui coule une rivière.
Oui. Oui, Sylvie Chauvin. Donc, je voulais juste intervenir après Madame. Donc, moi, je m'occupe du service patrimoine à la bibliothèque municipale de Saint-Étienne, à la médiathèque de Tarentaise, là, on est basé. Je voulais juste indiquer que nous avons un fonds de bibliothèque important sur la ville et le territoire de Saint-Étienne, un peu plus large que le territoire administratif de Saint-Étienne, et que nous avons vocation à recueillir les différents bulletins, brochures, ouvrages de toutes sortes qui parlent de Saint-Étienne et qui sont édités autour de Saint-Étienne et sa région. Donc n'hésitez pas, c'est notre rôle, mais bon, on a tous des difficultés. On devrait aller vers vous pour essayer de savoir ce que vous publiez et le récolter, mais n'hésitez pas à nous le faire savoir. Quand ça passe par un lieu de distribution facile tel que les librairies, on acquiert. Parfois c'est plus difficile, donc rentrez en contact avec nous, dites-nous ce que vous publiez, on le conserve et on le diffuse, et c'est important aussi pour constituer à la fois un corpus et puis ouvrir votre association à d'autres gens. Voilà, donc n'hésitez pas.
Madame Durand.
Oui, là on a effectivement un point très important de, de la mise en réseau, de la mise de la circulation des informations et du rôle que peuvent jouer dans cette circulation les services publics comme les bibliothèques ou les archives. Solange a parlé des portails des archives départementales, des archives municipales aussi, sur lesquelles il y a des documents, mais il y a aussi des articles. Voilà. Il y a quelqu'un qui va prendre la parole.
Ah bon, pardon. Excuse-moi. Anne-Marie. Oui, Anne-Marie Durand, donc pour le CEDMO. Une ou deux réflexions là, par rapport à ce qui a été dit. Par rapport à l'importance de la mémoire ouvrière, je crois que si on y est attaché aujourd'hui, c'est parce que je rejoins un peu la petite remarque qu'a fait Jean-Michel. C'est vrai qu'elle a été longtemps oubliée ou sous-évaluée, ou alors de façon, elle a été traitée de façon parfois incomplète. Et on s'aperçoit quand on travaille sur des archives et autres, on découvre des aspects oubliés. Je prends un exemple, là, puisqu'on parle à l'initiative du CEDMO sur les femmes, l'Union des femmes françaises. Dans le colloque qu'on prépare, il va y avoir une intervention sur Dora Rivière. Dora Rivière, on la connaît, on connaît son nom, on connaît son action, résistance, enfin, etc. Et quand on en discute, beaucoup de gens sont surpris de savoir qu'elle a été une des responsables de l'Union des femmes françaises à Saint-Étienne et qu'elle a joué un grand rôle. Et je crois que notre travail, c'est aussi de faire connaître la diversité que peuvent avoir des personnes qui, à première vue, sont connues, mais dont toute une partie de l'histoire a été occultée pour diverses raisons, d'ailleurs. La deuxième chose, c'est un peu l'intervention précédente. C'est vrai que les archives, c'est une chose, hein, de récolter, c'est déjà pas facile. Enfin, Daniel Durand en a parlé tout à l'heure. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de les faire vivre. Les faire vivre, c'est le travail historique, c'est la publication, etc. Et ça, ce n'est pas forcément évident, d'où l'intérêt de travailler avec des étudiants qui peuvent piocher et puis sortir un travail historique. C'est pour ça que, je dirais, le dépôt dans les archives, aux structures départementales ou municipales, ne pose pas vraiment de problème, parce qu'après, le rôle d'une association, elle n'est pas terminée avec la collecte, elle est aussi... Son deuxième aspect, c'est ce qu'on va, on espère essayer modestement de faire, c'est la faire vivre, c'est-à-dire transmettre, faire connaître, publier. Et alors, ça rejoint ce que disait Madame Destour, la question de la publication. Nous, on essaie d'en faire régulièrement, mais ce n'est pas simple parce qu'effectivement, il y a le problème financier. Et le problème, en introduction, il était question des inégalités entre les associations qui risquaient de se décider, de l'âge, enfin, etc. Il y a aussi effectivement le soutien financier, parce qu'on sait bien que quand on veut faire un projet, maintenant, il faut faire un dossier très conséquent, hein, bon, que ce soit la région, etc. Et que ce n'est pas si simple que ça, même quand on essaie de faire modestement des choses, de pouvoir avoir le soutien financier, que ce soit un colloque, une publication, etc. Et je crois que ça, c'est une vraie question. Dans les associations qui sont là, il y en a certainement qui sont confrontées à ces problèmes, hein, quand on n'est pas dans une structure officielle. Quoi. Voilà, je crois que... Oui.
Bonjour, Flore Vignier, je suis chargée de mission à Patrimoine Rhône-Alpin, qui est une association régionale. Et donc, je voulais quand même prendre la parole pour vous faire prendre connaissance, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, de l'existence donc de notre association et notamment de l'existence de notre commission patrimoine industriel, qui a pour but en fait de rassembler les associations, les structures qui travaillent autour du patrimoine industriel, afin de leur permettre d'échanger autour de leurs projets et aussi de leur faire construire un certain nombre de projets communs. Donc c'est une commission qui est assez récente, elle a 2 ans. Et on essaye de la faire vivre à travers tout un tas d'expériences. Donc là, on a établi un recensement donc, de ce qu'on appelle les ensembles industriels remarquables. C'est-à-dire ces sites où il n'y a pas uniquement des usines, mais aussi des cités ouvrières, des transports qui sont liés à la production, etc. Et on va essayer de mettre en valeur ce recensement. Et par ailleurs, on essaye aussi de faire rencontrer le grand public aux associations donc notamment à travers un forum qu'on fait maintenant depuis 2 ans à la bibliothèque municipale de Lyon, toujours axé patrimoine industriel, scientifique et technique. Donc voilà, c'est des petites initiatives qui existent à l'échelle régionale et qui peuvent être intéressantes pour certaines de vos structures. Il faut savoir que l'accès à nos commissions est totalement libre. On ne demande pas d'être adhérent chez nous, même si bien sûr on apprécie le soutien toujours d'une adhésion. On propose tout un ensemble d'autres animations. On a notamment des journées d'études. Jusqu'à maintenant, on avait une assistance à publication, c'est-à-dire que la région nous donnait un petit pécule pour aider les associations locales à publier dans la collection des guides rhône-alpins du patrimoine. Mais malheureusement, je vous donne une information qui est déjà un peu périmée parce que notre nouvelle convention ne prend plus en compte l'édition. Et ça, c'est une sonnette d'alarme qu'on peut tirer aussi, c'est-à-dire que la région ne juge plus important d'avoir des documents papier autour du patrimoine. Voilà. Mais en tout cas, si jamais vous voulez échanger avec moi là-dessus, je suis à votre disposition.
Moi, j'aurais juste une question à vous poser. Dans votre recensement des ensembles industriels remarquables, comment est organisé ce recensement ? Quels sont les experts ? Quels sont les terrains, territoires sur lesquels vous intervenez ? Est-ce que vous êtes venu dans la région stéphanoise ? Est-ce que vous avez rencontré des gens ? Enfin, c'est plein de questions. Voilà.
Notre recensement n'est pas un inventaire, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons sur le terrain. On fait appel aux associations locales pour qu'elles remplissent une fiche. D'accord. Du coup, on a eu un premier retour là au 31 octobre. On avait 33 sites recensés en région Rhône-Alpes. On avait malheureusement un certain vide du côté de la Loire, ce qui nous a beaucoup embêtés parce qu'on sait la richesse de votre patrimoine. On avait inversement 12 ensembles recensés sur l'Ardèche.
Oui.
Qui est paradoxalement plutôt rural et qu'on pouvait imaginer moins adapté. Alors je ne sais plus quelle était la teneur de votre question. Donc ça a été lancé en février, ça s'est clos le 31 octobre, mais c'est amené à être à nouveau enrichi. Donc si vous avez envie de remplir une fiche, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, donc, au niveau du choix, en fait, ça a été des critères qui ont été décidés par la commission patrimoine industriel et les ensembles ont été ensuite choisis par vote au sein de la commission patrimoine industriel. Donc en fait, c'est une expertise de terrain partagée entre les différents acteurs.
À qui vous êtes-vous adressé pour connaître les lieux ? Comment vous avez contacté les sites,
l'association.
Par les municipalités, par le. Oui.
Donc nous, on a un réseau existant donc à travers notre commission patrimoine industriel, donc on est passé par là. On a également envoyé le mail au PNR, aux archives départementales, aux archives municipales. Après, c'est souvent, à mon avis, tombé dans une boîte mail générique et pas arrivé jusqu'aux personnes malheureusement qualifiées. Voilà, donc en tout cas, c'était ce réseau-là.
Oui, bonjour, Cyril Longin des archives municipales de Saint-Étienne. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Honnêtement, j'ai pas de souvenir particulier d'avoir reçu sur une boîte mail ou même Sandrine, ville d'arrêt d'histoire, d'avoir reçu quoi que ce soit. C'est peut-être quelque chose à méditer, mais effectivement, vous devez peut-être pas pointer peut-être les bonnes personnes, mais nous sommes aussi là pour ça aujourd'hui. Vous avez reçu ?
C'est lourd parce que d'abord, il faut que ce soit la condition sine qua non. C'est un ensemble industriel. Donc, il faut travailler sur plusieurs bâtiments. Donc, moi, ça m'a paru un peu difficile. Et puis, alors, je dois avouer que j'ai baissé les bras devant la complexité du dossier parce que quand on demande... moi, j'aurais aimé vraiment solliciter et candidater. Vraiment, ça m'aurait plu. Et pour la Maison des 13, bien sûr. Mais quand on me demande quel est l'architecte qui a construit le bâtiment en 1830, moi, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne trouverai jamais. Et c'est que des questions comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai essayé. J'ai travaillé le dossier. Je l'avais téléchargé. Mais j'avoue que j'ai abandonné. vraiment. D'une part, mais surtout quand même, c'est que j'ai craint de ne pas entrer dans le cahier des charges, c'est-à-dire de ne pas travailler sur un ensemble industriel. Et il me semble que c'était un des paramètres essentiels. On est d'accord, c'est ça ? Mais on se verra après.
Oui, oui.
Non, sur ce qui est dit là, je crois qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et en même temps qui sont un peu du lieu commun, c'est-à-dire que la multiplication, le fait que l'action publique ait aussi changé et que n'est plus du tout récurrente et nous mette tous, mais je dis bien tous, dans des logiques d'appel à projet avec des complexités importantes, voilà, pour faire preuve d'un certain nombre de choses, c'est quelque chose qui est difficile pour tous et que ce qui pose pour les associations encore plus que pour tout le monde et les petites, voilà, des capacités d'ingénierie pour répondre à tout ça. Et peut-être ça, c'est aussi une question, je ne sais pas à qui il faut l'adresser, mais d'avoir aussi de pouvoir se doter quelque part, je ne sais pas où, de ressources. De ressources qui puissent aider aussi à monter ces dossiers et à les faire de la manière la plus percutante et pertinente possible, c'est vraiment une question. Mais deux personnes ont levé la main pour me répondre immédiatement, donc c'est parfait.
Oui, Sandrine prendra ma suite. Juste deux remarques. La première, sur les éditions et les outils de publication, je souhaite préciser que, alors c'est le cas des archives municipales bientôt, mais ça peut être le cas d'autres structures. Nous proposons, le site internet que nous allons inaugurer d'ici la semaine prochaine aura un espace contributif, puisque nous considérons que l'écriture d'un... Enfin, on appelle ça le récit stéphanois, mais ça peut être le cas pour le bassin, s'écrit à plusieurs voix. Donc, on n'a pas la science infuse, ce n'est pas à nous de forcément la diffuser seul, et nous laissons un espace contributif pour toute personne souhaitant écrire une page de cette histoire. Alors Jean-Michel y a déjà contribué, mais donc ce sera des entrées thématiques, hein. Il peut y avoir l'histoire ouvrière, l'histoire industrielle, l'histoire politique. Donc nous allons proposer ces espaces de diffusion qui est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question financière, il n'y a pas de question d'impression. Alors je sais bien que c'est à travers un site public, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est aussi notre rôle parfois de vous aider comme ça, par des petites choses. Évidemment, aussi, c'est un intérêt pour le public extérieur qui essaye d'avoir en un lieu unique ou différents lieux, mais pas trop démultipliés, d'avoir une vision globale et accès à des ressources. Et ensuite, ça fonctionne aussi comme une idée d'un portail, hein, c'est qu'on renvoie vers les sites des uns et des autres. La deuxième chose, ça concerne les partenariats. Les associations connaissent des périodes difficiles. Je vous assure que les services municipaux ou publics en général aussi. Et nous sommes souvent des petites structures et nous avons intérêt à travailler ensemble. On fait mieux ensemble. Si on rajoute nos petits moyens les uns derrière les autres, on fera beaucoup mieux. Voilà. Pensez au partenariat systématique. Ne restez pas dans vos communes. Élargissez vos périmètres, vos réflexions, puisqu'on fera davantage ensemble. Voilà. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires et partenaires. Voilà, je dirais partenaires. Mais Sandrine, tu voulais ajouter ?
Moi, je voulais juste rajouter par rapport un peu à cette ingénierie culturelle. J'anticipe la démarche des politiques qui vont sûrement quand même valider le projet de futur pays d'arrêt d'histoire. Mais forcément, pour valoriser un territoire, il faut bien le connaître. Et la connaissance de ce territoire fera donc l'objet numéro 1 de la première marche du pays d'arrêt d'histoire. Et en ça, je pense que ça pourra aussi aider à mieux connaître les lieux. Il est normal, par exemple, que l'inventaire des sites industriels, qu'ils soient complets, donc c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut imaginer, au lieu de production, logement, etc., soit fait. Mais tous les sites intéressants, donc l'histoire du bassin, donc l'histoire, ses mémoires, vont être portés à connaissance avec vos aides et vos appuis, et forcément, du coup, aideront les structures connexes, comme Patrimoine Rhône-Alpin, à identifier une clé d'entrée et voilà, vous aider aussi à faire remonter l'information du terrain sur les lieux, sur les choses qui font partie des patrimoines, des héritages de notre territoire. Parce que c'est pas normal qu'il n'y ait rien sur les complexes, sur les lieux industriels du département de la Loire.
Oui, bonjour, Gérard Vial de l'association Les Films du Ruban. Et je suis l'ancien directeur de la Cinémathèque de Saint-Étienne. Un collègue tout à l'heure a parlé de l'INA à propos des films. Effectivement, je me suis aperçu que, notamment à travers la séance à la Cinémathèque hier qu'organisait Jean-Michel, que le film, l'archive filmique, que ce soit des films amateurs ou des films professionnels ou des films d'édition ou d'entreprise, constitue une mémoire collective, régionale. Et à la Cinémathèque pendant 30 ans, donc j'ai mis en place une collecte systématique. Voilà. Donc vous avez des films à la Cinémathèque avec des séances publiques qui sont régulières. Donc vous les verrez dans le dépliant, puis bien sûr sur le web. Et par ailleurs, dans le cadre de notre association que nous avons créée avec Chantal et des amis, on se préoccupe de la diffusion de cette archive, de cette mémoire régionale. Avec des partenaires, alors bien sûr la Cinémathèque, puisque je présente des films à la Cinémathèque dans différents cadres, dans le cadre de l'Université pour tous, mais on peut très bien aller dans telle ou telle association ou organisme. Voilà. Alors, un petit regret sur le fait qu'on a essayé plusieurs fois de mettre en place à la Cinémathèque une consultation publique des vidéos, et par manque de moyens, à chaque fois, les projets ont été abandonnés. Bon, il existe des projets au niveau de la Cinémathèque et de la Médiathèque. Voilà. En tout cas, dans le cadre de l'association Les Films du Ruban, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez organiser une séance de projection avec des archives régionales, puisqu'on a, dans le passé, avec Chantal, tourner pas mal de choses sur la mine, la passementerie, les cloutiers, les tailleuses de lime, tous ces thèmes qu'on a entendu parler aujourd'hui. Voilà.
Oui, une question devant.
Après, Roland Fournel de l'association d'histoire de réfugiés RRH. Je me demande si pour entamer cette collaboration qu'on évoque tout, puisqu'on s'aperçoit ce matin, on travaille tous de notre côté, on n'aurait pas intérêt à démarrer modestement par thème. Hein, je veux dire, par exemple, bon, pour l'histoire industrielle, c'est assez évident parce que tout ça est complémentaire. L'histoire de la mine côté d'Ugier est tout à fait complémentaire avec ce qui s'est passé à Saint-Étienne et dans l'Ondaine. Et or, souvent, les choses sont séparées. Et ça pourrait être la même chose, bien sûr, sur d'autres sujets, et y compris sur la mémoire ouvrière. Il ne faut pas oublier, parce que moi, je trouve que ce serait très important, parce qu'on a des archives très riches. Je pense notamment aux archives départementales. Mais on s'aperçoit que c'est souvent des archives techniques, des archives des ingénieurs, et qui évoquent quand même très peu, sauf sur des choses comme les accidents, la mémoire ouvrière. Et ça manque un petit peu quoi, dans les documents. Donc, c'est intéressant, y compris, de conserver ce thème-là. Mais travailler par thème, il me semble que on pourrait essayer de voir si ça peut marcher, en voyant ce que chacun peut apporter, puis quel travail on peut faire en commun.
Oui, belle illustration que vous venez de donner de la complexité de passage de la mémoire ouvrière à l'histoire ouvrière. Parce que finalement, ces archives d'ingénieurs que vous évoquez, elles concernent beaucoup l'histoire ouvrière. Mais, parce que l'accident, c'est quand même quelque chose de fondamental dans l'histoire ouvrière.
Donc, moi, je vais me permettre de conclure, ça c'est vrai, j'y suis poussée, mais aussi de dire que ce terme de partenariat qui est, et puis je vous remercie de la proposition constructive que vous faites, que ce partenariat, ça ne veut pas dire réduire les singularités que vous avez tous et que vous nous avez bien montrées, parce que je crois qu'elles sont importantes, qu'elles sont nourries, qu'elles sont fondées, et que on connaît bien et on compare bien et on développe sa connaissance quand on est aussi assis largement sur ces singularités. Ça me semble important. Partenariat, ça ne veut pas dire se faire prendre ses trésors, voilà. Mais les organiser au mieux, les faire connaître au mieux, trouver des modalités de présentation qui soient actualisées. Je reprends mon terme tout à l'heure, c'est ce que je trouve le mieux. Prendre en compte aussi que l'histoire à laquelle nous faisons face et vous faites face, elle est lacunaire. Alors, c'est d'autant plus vrai pour l'histoire ouvrière, je vais dire ça comme ça, mais aussi pour l'histoire industrielle, pour en revenir à la remarque de monsieur tout à l'heure, de manière générale, elle n'est pas réductible au paradigme monument historique, c'est très clair, et que la question des traces est terriblement importante. Je vais vous donner pour illustration moi, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui est celui d'un dernier ouvrage de Michel Perrault, qui est une historienne peut-être que vous connaissez, qui s'est distinguée sur l'histoire des femmes, qui s'appelle « Mélancolie ouvrière ». Et elle travaille, c'est absolument remarquable, et ça m'a vraiment touchée, cet ouvrage-là, elle travaille sur des bribes d'histoire d'une ouvrière de la soie de la région de Grenoble, qui s'appelle Lucie Beau, qui est une femme qui a participé au premier congrès de l'industrie, du syndicat du textile. Et à partir d'une photo, d'une trace, elle reconstitue l'histoire de cette femme. Et je crois que ça aussi, ce sont des manières de donner à voir aujourd'hui, dans des formes d'aujourd'hui, des mémoires et des vies d'hier qui sont intéressantes. Dernière chose, moi je reviens à l'histoire que madame, vous avez, enfin l'histoire très récente, mais les collaborations, ça ne se décrète pas non plus. Et les pensées par projet, comme vous venez de le proposer, ou d'en revenir à cette initiative, alors on ne va pas l'emblématiser, elle a été super, etc. Mais de l'exposition sur la rivière G, moi je ne suis pas très géographe dans l'âme, alors je me dis toujours, la rivière, le fil de collaboration, etc. Bon. Et en même temps, c'est vrai que cette expérience-là a été, je pense, extrêmement intéressante. Se sont fait frotter différentes associations, des univers aussi différents, et des rapports à la connaissance de ces territoires différents. Donc peut-être c'est aussi une manière de commencer, de se donner ces thèmes communs et de travailler par entité territoriale ou thématique à plus grande échelle de ce que l'on fait. Voilà. Et puis maintenant, il faut fermer la salle, je crois.
Merci Christelle pour cette collaboration que tu nous as apportée. Je crois que tu nous as donné du souffle à travers la prise de distance qui était nécessaire par rapport à tout ce que nous avons dit. Alors, nous avons nourri les esprits jusqu'à présent. Maintenant, il faut nourrir autre chose. Nous allons fermer la salle, c'est-à-dire que c'est assez compliqué parce qu'il n'existe pas de clé que j'aurai dans ma poche. On va demander à la personne qui s'occupe du matériel et des locaux de fermer derrière nous et ensuite de réouvrir lorsque nous commencerons. Donc, ce n'est pas très pratique. N'oubliez rien et puis voilà, nous fermerons et tout sera en sécurité. Bon appétit.